Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, vous écoutez les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le pionfesseur et pour m'accompagner dans cette émission, je suis avec Elodie. Salut Elodie.
Salut pionfesseur, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, ça va bien, c'est le printemps, les oiseaux chantent, les fleurs sortent de terre. Moi ça me va très bien, c'est ma saison préférée.
Moi il pleut chez moi, écoute, donc tu vois, c'est pas...
Ah merde.
On ressent pas encore le printemps, tu vois. Mais Cependant, c'est la première fois que je crois qu'on fait un jeu du mois ensemble, il me semble.
Tout à fait. Ben moi, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait que deux jusqu'à présent. On avait fait un avec Mad et un avec Cyrus. Donc, je suis très contente de partager le micro en ta compagnie.
Ouais, ben pareil. Je me demande combien il y a de combinaisons de podcasteurs possibles dans la team. Faudrait que quelqu'un nous fasse un calcul et tout.
Ce qui est pas très compliqué. Ça sera pas moi. Moi, les maths et moi, c'est pas mon truc.
Ce sera très compliqué, en fait, mais bon.
Non, je pense que c'est pas... C'est quoi? C'est le nombre de personnes multiplié par le nombre de personnes moins 1. Ça doit être un truc comme ça.
Eh ben voilà, tu vois que c'est facile les maths.
J'aime pas ça quand même.
Très bien. Bon, plutôt que de nous faire des discussions de mathématiques, on va peut-être, avant de commencer l'émission, faire des petits remerciements, je te propose. Et on va commencer par remercier les donatrices et les donateurs. Est-ce que tu veux le faire?
Eh ben oui, c'est parti. Donc un grand merci à vous, Yann Solo, Nico Como, Altaripa, 8Pool, Chacado, Hurlien, Olive Link, Yann Le Proto, Bobby Fada, la famille Guyot, Kidge, Fendoel, Suveil, Ophélie et Geoffrey.
Et puis il faut aussi remercier notre partenaire La Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.fr. Et toujours avant de commencer l'émission, on va faire un petit retour sur les commentaires du dernier épisode des Jeux du Mois, où c'était Bartouf et Flavien qui nous parlaient de Origin Story pour Flavien, parce que bah, c'est un jeu de pli, alors forcément c'est Flavien qui en parle.
Évidemment.
Et Bartouf, lui, il parlait de Pic Team. Je sais pas si t'as écouté l'émission et ou si tu as joué au jeu, mais moi, ni l'un ni l'autre. J'ai pas écouté parce que j'ai pas encore joué au jeu. J'ai envie de, tu vois, en tant que critique, d'écouter d'abord, de jouer d'abord au jeu avant de l'écouter.
Eh bien, écoute, comme j'ai joué à Origin Story ce week-end, j'ai commencé à écouter l'émission parce que, comme toi, j'aime mieux avoir joué au jeu avant d'écouter. Et Pic Team, bah, je suis là, j'y ai joué depuis octobre dernier, donc même en avant-première. Parce que je suis sur un festival, on traitait des jeux de la nature, et Matago nous avait gentiment envoyé une boîte de ce jeu en avant-première, que j'avais trouvé plutôt cool. Moi, j'aime bien les jeux coop. Et Origin Story, j'ai trouvé ça aussi assez sympa, et je trouve qu'ils méritent tous les deux leur jeu du mois.
Trop bien. Et du coup, sur cette émission, il y a eu 3 commentaires. On a eu un commentaire de Gerny Lolo, qui disait qu'avec tous ces petits pouvoirs en tout genre là, peut-être que Origin Story serait au jeu de pli ce que Magical Athlete est au... Enfin, maintenant, il faut dire Athlète de Compète, maintenant qu'il a été édité en français.
Oui, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Il sort là bientôt.
Ouais, effectivement, ouais. Mais peut-être que quand l'émission sortira, ce sera sorti, on verra. En tout cas, ce que Athlète de Compète est au jeu de loi, dit-il.
C'est une belle punchline, je trouve.
Moi, j'ai envie de dire, si tu veux jouer à un jeu qui est au jeu de pli, ce que Athlète de Compète est au jeu de loi, faut que tu te renseignes sur Cosmic Idex, un truc comme ça, qui est un jeu de l'auteur de Kremlin, qui est un jeu de pli où justement t'as un gros pouvoir comme ça, justement à la Magical Athlete, quoi.
Et on sait tout le bien qu'on pense de Kremlin.
Exactement.
Donc, on a Calervé qui a eu envie de jouer à Pic Team et Gerny Lolo sur Discord qui a lui envie de jouer à Origin Story. Donc, on peut vraiment dire que Bartouf et Flavien sont des influenceurs. Bravo à vous, messieurs.
Aïe, aïe, aïe. Attention, madame. Attention, je m'insurge.
J'ai fait exprès de dire ça.
Ouais, voilà, je suis déclenché.
Je suis dans une humeur taquine. C'est le printemps, on est prime sautier, tu sais.
Ah ouais, ouais. Donc, mais vas-y, continue les commentaires.
Et nous avions aussi Tita, donc, sur le site internet, qui nous donne quelques infos complémentaires vraiment intéressantes sur les auteurs d'Origin Story. Donc, je vous invite à aller lire son commentaire. Et sur Discord, il y a eu toute une discussion aussi avec Gerny Lolo. Pareil, on vous invite à lire la discussion sur Discord, qui serait un petit peu longue à résumer dans cette émission.
Super. Eh bien, écoute, on va pouvoir commencer pour de vrai l'émission. Et aujourd'hui, on va parler donc de Dixit Kids pour ta part et Cup the Crab pour ma part. C'est parti. Elodie, je te laisse commencer. Donc, toi, tu vas nous parler de Dixit Kids, auquel je n'ai pas joué, mais tu vas éclairer ma lanterne.
Tout à fait. Et je crois que c'est l'une des premières fois qu'on met un jeu pour enfants dans les jeux du mois.
Ouais.
Donc, je vais...
Bravo, voilà, tu inaugures.
J'inaugure, j'innove.
Ah, c'est cool.
Souvent, on les traite plutôt dans les joueurs nés. Mais pour moi, il méritait encore plus qu'un joueur né, parce que pour moi, ce n'est pas juste un jeu pour enfants. C'est un jeu qui peut vraiment être joué par tout le monde. Donc, pour ceux qui nous suivent un peu depuis quelques temps, vous connaissez mon amour inextinguible pour Dixit.
Pour les illustrations en général.
Pour les illustrations en général, mais bah, et tout a commencé par Dixit. Hein.
Bah ouais, ouais.
Pour moi, c'est vraiment le jeu fondateur sur des beaux jeux. Même si Magic le faisait aussi, hein, des illustrations magnifiques sur Magic. Ouais. Voilà, enfin, c'était le thème de mon mariage. J'y ai joué. Enfin, j'ai eu une claque dingue quand j'y ai joué pour la première fois. J'y ai joué avec énormément de monde et c'est un jeu. Je pense que c'est l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué et auxquels j'ai le plus fait jouer. C'est surtout ça aussi, parce qu'à un moment donné, je faisais des ateliers d'éducation à l'image et je travaillais notamment avec des gens assez éloignés de la culture. J'ai pu bosser avec des dames qui étaient dans des moments de vie très très difficiles et qui ne s'autorisaient absolument pas à jouer, si ce n'est à vraiment des jeux d'enfants avec leurs enfants. Mais l'idée de jouer pour elles, c'était inimaginable, ou de créer des choses, enfin tout ça. Et donc, pour les ouvrir à la création et avoir envie de faire des choses pour elles, je sortais le Dixit et il y avait quelque chose d'assez magique qui se passait. Donc ça a vraiment créé un lien entre ce jeu et moi et puis mon ancien travail assez fou.
Ok, ouais.
Donc quand j'ai entendu parler d'un Dixit pour enfants, moi je jouais déjà aussi au Dixit avec des enfants, en partant sur l'idée de jouer avec les émotions plutôt qu'avec les illustrations propres, parce que tu joues à Dixit avec des gamins, ils vont juste décrire l'image qu'ils voient et ça va être vraiment trop facile de trouver quelle est l'image qu'ils avaient donnée. Tandis que si tu pars sur des émotions, c'est beaucoup plus simple de trouver plusieurs cartes qui montrent la même émotion. Donc, pour moi, il y avait déjà cette façon de jouer avec des enfants qui existait. Et l'idée de faire un Dixit pour enfants, moi, ça, j'ai eu un a priori négatif de ouf en me disant, bah, c'est Asmodée qui essaye de se faire de la thune sur un jeu incroyable. Donc, j'étais vraiment, je suis partie remontée comme un coucou, quoi. Mmh. Et arrive le festival de Vichy, donc le festival pro, où j'y vais pour la boutique, qui est mon métier actuel. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir y jouer avec Erwin, donc qui est la directrice artistique du jeu, en avant-première, dans un cadre hyper bienveillant et doux. Et là, je me suis dit, bah, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, parce que j'ai trouvé ce jeu incroyable. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils étaient arrivés à amener Dixit encore plus loin qu'où il était. Je sais pas comment dire, combler tous les défauts qu'on pouvait lui trouver.
Ok, ouais, je suis curieux parce que tu vois, moi, j'ai beaucoup de reproches à faire à Dixit, donc je suis curieux de savoir si ça se trouve, j'aimerais pas mieux le Kids, du coup.
Eh bah écoute, je pense que oui, parce que je sais quels défauts tu lui trouves. et je crois que... Stay tuned, je pense que je vais te donner envie de jouer à Dixit Kids.
On va voir ça alors, ouais.
Donc voilà, le jeu en fait il se passe comme ça. C'est un jeu déjà de Théo Rivière, Élodie Clément, Jean-Louis Roubira, donc Jean-Louis Roubira qui est l'auteur original de Dixit. C'est un jeu coopératif qui est donné à partir de 6 ans et qui va jouer autour des émotions. Donc ça, c'est déjà le gros changement par rapport au Dixit classique, c'est le fait qu'il soit coop et plus compétitif. Et qu'on mette vraiment les émotions au cœur du jeu, ce que moi j'avais fait plutôt de manière de variante, quoi.
Oui.
Donc on va tous incarner à notre tour une lapine factrice. Et le but du jeu, c'est qu'on a 7 tours pour délivrer les invitations à tous les amis de la factrice pour sa fête d'anniversaire. Donc voilà, elle va essayer de donner toutes ses invitations à sa fête à 8 petits lapins, qui sont 2 par terrier. Donc on va inviter les lapins 2 par 2. Donc pour cela, la factrice choisit un des 2 lapins du premier terrier. On a 4 terriers sur le plateau. On va choisir le premier. Sur chaque terrier, il y a 2 petits lapins qui ont chacun 2 émotions différentes. Ce sont que des illustrations, on n'a absolument pas de texte sur le matériel. Donc on va poser le meeple de la lapine devant un des 2 petits lapins. C'est le lapin qui va recevoir l'invitation. La lapine, donc la joueuse ou le joueur actif va choisir une carte parmi les 3 de sa main, la plus proche de l'émotion choisie, et les autres joueurs et joueuses choisiront, elles, la carte la plus éloignée de cette émotion. Donc là, on est vraiment à l'inverse du Dixit classique dans la façon de jouer. Là où, dans le Dixit classique, on doit tous trouver une carte similaire, là, on a une carte un peu intruse par rapport aux autres. On va mélanger toutes les cartes posées sur la table, et ensuite, on va faire 1, 2, 3, on pointe vers celle qu'on pense être celle de la factrice. Si plusieurs personnes ont voté pour cette carte, c'est tout bon. On peut ouvrir le terrier et inviter les 2 petits lapins qui y vivent. Sinon, on passe au jour et au terrier suivant et on réinvitera ces petits lapins lors de la prochaine tournée. Donc, il y a 4 terriers à aller où il faut délivrer des lettres et on a 7 tours pour y arriver. Donc, on est sur des jeux, déjà, on est dans la famille des jeux coopératifs pour enfants. Et pour moi, on est sur les jeux qui travaillent les émotions et puis aussi les associations d'idées. Donc, des jeux de la même famille, j'ai pensé à Feelings, par exemple, du même Jean-Louis Roubira. Dans Feelings, tu y as joué à Feelings ?
Ouais, tout à fait. Encore un jeu que j'aime pas, d'ailleurs.
D'accord. Comment ça se fait que t'aimes pas ?
Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à finir une partie parce que ça part immédiatement en débat, tu vois. Et du coup, on ne joue plus, en fait. Alors, c'est intéressant comme outil de débat, etc. Mais en fait, à jouer, c'est hyper chiant, tu vois. C'est plus intéressant à ne pas jouer, presque, je trouve. Donc, si tu veux, tant qu'on y joue, on se fait chier. Et puis, quand il y a une discussion intéressante qui en émerge, parce que tu sais, on y joue à l'apéro ou un truc comme ça, bah, finalement, on préfère discuter que de continuer à jouer, tu vois. Donc, c'est une relation de haine assez particulière que j'ai à ce jeu, tu vois.
Ouais, parce qu'on sent que t'aimes bien une discussion quand même liée à ce.
Bah ouais.
Mais c'est un jeu qui est souvent utilisé par des. Dans un cadre thérapeutique ou par des éduques, puisqu'on a le feeling harcèlement, on a le feeling addiction.
Oui.
Donc
oui,
l'idée
oui.
que ça soit des jeux qui lancent des discussions et qui soient au-delà du jeu presque, dont l'intérêt est au-delà du jeu et pas déconnant.
C'est ça, mais du coup, j'ai envie de dire pourquoi un jeu dans ce cas, tu vois. Je pourrais juste avoir les discussions, je farfouille les textes et puis on discute de ça, tu vois, plutôt que d'avoir tout ce contexte de jeu, etc. Enfin, voilà, ça m'a pas plus que ça, tu vois. Dans le genre, je sais pas si t'as joué à Affinity.
Non.
Ou, tu vois ce que c'est ou pas ?
Pas du tout.
Parce que là, c'est vraiment un truc où tu dois faire deviner une émotion. Et là, t'es beaucoup plus dans un cadre ludique, dans le sens pas trop serious game, tu vois. Et l'idée, c'est que vraiment, t'as des cartes en main et tu dois fabriquer une phrase avec, tu vois, t'as 3 cartes de début, 3 cartes de milieu, 3 cartes de fin de phrase. Et du coup, tu prends un début, un milieu et une fin et t'essayes de faire deviner ton émotion. Mais t'as tout le problème qu'il faut que tu joues avec la main que t'as, quoi. Et c'est un peu galère, okay. Des fois. Donc ça, je trouve ça plus intéressant, quoi.
Oui, plus du côté ludique que Feelings, qui est un support à discussion, en fait.
C'est ça, ouais.
Parce que l'idée de Feelings, c'est qu'on va essayer de retrouver des émotions ressenties par les autres personnes autour de la table par rapport à un thème. Avoir, je sais pas, vos parents transforment votre jardin en votre pelouse en jardin potager. Est-ce que vous ressentez de la colère, de la joie, de la surprise? Enfin voilà, faut deviner ce que vont ressentir les autres. Donc dans les jeux aussi que je pensais un peu liés à ce Dixit Kids, il y avait pour moi le Monstre des couleurs, qui est aussi un jeu qui va jouer autour des émotions. Par contre, on a un panel d'émotions qui est beaucoup plus restreint, parce que je crois qu'on en a 4 ou 5, et c'est aussi un jeu de mémoire. Donc une mécanique qu'on utilise quand même ad nauseum dans les jeux pour enfants, la mémoire, et pas toujours à bon escient. Là, pour le coup, c'est la transcription d'un livre pour enfants qui est hyper utilisé aussi dans les écoles, etc. Donc je pense qu'on a aussi un petit côté éducatif slash thérapeutique dans ce jeu où on va verbaliser les émotions et c'est aussi un support à discussion aussi. Alors, j'ai pas joué non plus. Est-ce que tu as joué au Monstre des couleurs ?
Non, j'ai pas joué. J'aimerais bien, mais malheureusement, j'ai pas joué.
Et enfin, le dernier auquel j'avais pensé, et pour le coup, celui-là, j'ai joué, je pensais à Concept Kids. Donc, dans l'idée de l'association d'idées, de la devinette et puis du jeu coop, on s'éloigne un peu plus pour le coup du Dixit Kids, mais à ce côté d'essayer de se comprendre et que les enfants essayent de se mettre quelque part à la place des adultes pour faire comprendre des trucs aux adultes. T'as un mot à dire sur Concept Kids ?
Non, pas joué. J'ai joué qu'à Concept normal, mais...
Je crois que j'aime encore mieux l'enfant. Moi, j'aime mieux la version kids.
Ouais, j'allais dire, moi, je peux pas blairer Concept de base.
Et je trouve que, j'aime mieux la version kids. Je trouve ça plus rigolo de jouer avec les animaux.
Mais un jeu aussi, moi, que je pense qui pourrait faire un rapprochement, c'est peut-être Discover. T'as joué à ça ?
Oui, j'ai joué ce week-end. J'ai trouvé ça génial. J'ai pensé à toi.
Ouais,
puisque t'en avais dit beaucoup, beaucoup de bien, et oui, ouais, c'est vrai.
Je sais pas si tu vois pourquoi je fais un rapprochement.
Tout à fait. Quelle émotion nous génère une chanson, et du coup, quelle image on peut associer à cette émotion.
Ouais, c'est ça. Je trouve que, pour moi, c'est le jeu où je m'interroge le plus sur des émotions. Je parle de Discover, parce que vraiment, tu sais, la musique, c'est un truc que d'habitude, tu le ressens sans trop te poser de questions, tu vois. Et vu que t'es dans un sentiment assez pur, c'est vraiment dur de se dire « Ah, mais qu'est-ce que les gens ils ressentent quand ils écoutent cette musique, tu vois, et quelle est l'image qui correspond le plus ?» C'est pour ça que je me dis, dans Dixit Kids, vu ce que tu m'en racontes, il y a peut-être plus ce rapport-là avec l'image, genre « Qu'est-ce que ça m'évoque une illustration, quoi, tu vois ?»
Ouais, non, mais tout à fait. C'est vrai que vu que j'ai joué ce week-end, j'aurais pu y penser automatiquement. Mais en effet, c'est vrai que c'est très très proche. J'ai plutôt pensé au jeu enfant. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est passé en dehors de mon radar. Mais je pense qu'on pourrait tout à fait jouer à Discover avec des gamins en plus.
Oui, carrément. Puis c'est coop aussi et tout.
Ouais. Et d'ailleurs, ça peut être très rigolo. Et je pensais même y jouer avec des cartes de Dixit.
Oh oui, ça marche carrément.
Ça marche aussi. Surtout que j'ai 15 000 extensions de Dixit, donc ce qui est chouette dans Discover, c'est d'avoir des styles graphiques qui sont hyper différents.
Oui.
Donc si tu as juste le Dixit de base, les cartes, elles seront toutes pareilles, enfin elles auront toutes un même style graphique. Donc si tu as plein d'extensions, ce qui est mon cas, ça permet d'avoir vraiment ce côté foisonnant du Discover en termes d'illustration, qui marche vraiment bien, quoi.
Après, c'est ce que je dis toujours de ces jeux-là, avec des illustrations, c'est qu'ils servent tous d'extensions les uns aux autres, en fait. Genre, tu pourrais utiliser Mysterium comme extension de Dixit, tu pourrais utiliser Discover comme extension de Dixit, etc. Tu vois, tu pourrais jouer avec Codenames Image à Discover, etc. En fait, tu peux tout mélanger, en fait.
Ouais, je pense, malgré tout, que dans l'idée, je pense que oui. Mais après, je pense qu'un Mysterium, par exemple, pour jouer à Discover, ça marche pas. Parce que les illustrations, elles sont trop similaires.
Oui, tu augmentes la difficulté, quoi.
Et puis, on est un peu sur la même émotion. D'inquiétude, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de trop similaire.
Oui, c'est clair, ouais.
Mais ça, je vais y revenir. Je pense que par rapport à Dixit, enfin, pour utiliser les images d'un autre Dixit pour Dixit Kids, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pareil, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, je vais revenir aux sensations de jeu. Donc pour moi, le coop est l'essence, enfin, aurait dû être l'essence du jeu de Dixit. Le fait que ce soit... Alors bon, c'est un jeu qui a 20 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, ou pas loin. Il a dû sortir au début des années 2000.
Je crois que c'est 2010.
Ok, 2010. Bon, donc 15 ans. Donc je pense que le coop n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui et qu'il y avait peut-être eu... Ils n'y peut-être pas pensé au moment de la... Enfin, je ne veux pas faire... Enfin, pas lancer des plans sur la comète, sur ce à quoi ils avaient pensé, pas pensé. Et moi, j'ai toujours joué à Dixit... Enfin, la plupart du temps, joué à Dixit en m'en foutant un peu des points. Et les gens autour de moi, ils s'en foutaient un peu des points. Et on était vraiment sur l'idée d'essayer de se comprendre les uns des autres. Et j'ai fait une partie avec des gens beaucoup plus compétiteurs qui commençaient à calculer comment faire... pour donner un indice au dernier en points. Comme ça, il ne filait pas des points à ceux qui étaient trop avancés sur la piste. Et j'ai trouvé cette partie, mais horrible, parce que pour moi, ça dévoyait complètement l'esprit du jeu. En tout cas, l'esprit que j'avais mis dans le jeu. Enfin, oui. Voilà. Ce qui était mon ressenti de ce que devait être le jeu. Et là, le fait de mettre d'avoir un principe de coopération, ça t'enlève ça. Donc, tu ne peux plus dévoyer le jeu comme ceci. Et déjà ça, je trouve que c'est incroyable. Ça enlève ce côté gagnant à tout prix, là. Mmh. Ben, c'est tellement pas mon esprit que c'est compliqué pour moi. Donc, ça amène un jeu très doux, où on va parler de ses émotions, parce qu'on a une foisonnance d'émotions dans les petits lapins, qui est vraiment chouette. On peut aussi avoir un côté cathartique, parce que moi j'ai fait une partie avec quelqu'un qui n'était pas très bien dans ses baskets, qui sort d'un burn-out, et du coup il a pu parler de ses émotions, et c'était magnifique, parce qu'il y a vraiment eu ce côté où il a pu s'épancher, on est allé au-delà du jeu, c'était très beau. Et c'est un jeu qui, je pense, demande à prendre son temps pour être joué. Parce qu'on a des fois envie de débriefer sur les émotions que nous ont procurées les cartes ou que les cartes nous ont donné à voir. C'est un très beau moment aussi intergénérationnel parce que c'est donné pour 6 ans et plus et c'est vraiment ça. Pour avoir joué avec une enfant de 6 ans, première partie c'était un petit peu compliqué, on a dû l'aider un peu. Deuxième partie, elle se débrouillait toute seule sans problème. Et on se rend vraiment compte qu'on n'appréhende pas de la même façon les émotions en fonction de notre âge. Et ça aussi, c'est très beau. Et je trouve que ça nous reconnecte à notre enfant intérieur quand on joue à ce jeu avec des enfants. Et c'est vraiment cool. Mais on peut aussi jouer entre adultes et y prendre énormément de plaisir. Et comme je te disais, il y a une énorme variété d'émotions proposées. Et donc, on ne prend pas les enfants pour des imbéciles. On n'est pas sur des émotions binaires, on n'est pas sur juste... les émotions, tu sais, à la vice-versa. Premier film de vice-versa, au début du film, où t'as juste la colère, la tristesse, la joie, et je sais plus que le dernier, je crois qu'il y a 4 émotions. Là, il y en a...
Il y a la peur aussi.
Oui, il y a la peur. Là, on en a 32. 32 émotions, je trouve que... voilà. Alors, c'est émotion-sensation. Parce que ça peut être, tu vois, on voit avec des lapins qui tremblent, donc ça peut être aussi une sensation de froid. Un lapin qui sue, il peut avoir aussi bien peur que chaud. Donc on peut aussi avoir des sensations physiques. En revanche, moi j'ai un petit truc, un petit bémol, qui thématiquement, j'ai un truc qui coince. Parce que comme je te l'ai dit, on invite, la factrice invite un des deux lapins du terrier. Et normalement, les autres joueurs et joueuses sont censés inviter l'autre lapin. Donc voilà ce qui est dit dans la règle. Quand la factrice en chef a choisi son invité, chaque apprenti facteur sélectionne une carte de sa main qui correspond à l'attitude de l'autre lapin du terrier, qui n'a pas de pion factrice en chef devant lui. Lorsque tous ont sélectionné leur carte, il la place face cachée sur l'invitation. Et là, on a dans la règle un petit lapin qui pose la question... Et si je n'ai pas de carte pour l'autre lapin du terrier, essayez de jouer une carte qui correspond le moins possible à l'attitude de l'invité. Et là, je trouve ça bizarre.
Ouais, j'avoue.
Parce que soit... Tu vois, je trouve que thématiquement, il y a un truc qui me gêne. Est-ce qu'on peut pas dire, bah, on choisit lequel des... Les deux vivent dans le même terrier. Donc, on choisit lequel des deux est invité et l'autre sera le plus un. Et là, ce truc de dire, bah, essayez d'inviter l'autre, mais si vous y arrivez pas, vous mettez une carte la plus éloignée. Quand on a essayé d'expliquer ce truc-là à mes cousines, donc qui avaient 6 et 10 ans, franchement, elles pigeaient pas. Qu'on aura juste dit, mettez l'émotion la plus éloignée de la personne qu'on essaye d'inviter. Ce truc de, on invite l'autre, mais de toute manière, si on en invite un, les deux seront à la table, et chelou. Enfin voilà, c'est un détail, hein. On est d'accord que c'est pas grand-chose, que je gratte un petit peu
pas tant un détail, parce qu'en fait, quand tu expliques le jeu, vu que c'est un jeu pour enfants, il y a de grandes chances que tu y joues avec des enfants, et que du coup, je veux dire, la thématique soit là aussi pour un peu accompagner l'explication mécanique, tu vois, l'explication de règles.
Tout à fait.
Donc si c'est pas cohérent, je trouve que les gamins, ils vont juste pas piger, en fait. Comme tu dis.
Bon, hein. Enfin, je suis contente que tu le vois comme ça, parce que c'est vrai que ça m'a tiqué depuis la première partie et que j'essaye de trouver une autre façon d'expliquer le jeu.
Ouais.
Et en effet, mais c'est vrai que moi, je suis assez attachée à ce que toute la thématique colle. Et pour moi, c'est important dans un jeu, j'y mets de l'importance. Et là, voilà, ce truc-là, ça m'a un petit peu gênée. Je pense qu'il y avait peut-être moyen de trouver quelque chose de plus logique. Et puis, l'autre détail, mais ça, c'est l'autre inconvénient pour moi, mais qui est le même dans tous les Dixit, c'est qu'on a beau avoir 84 cartes, ce qui est quand même pas mal, mais au bout de 3 parties, tu les as vues, les 84, et t'as l'impression d'en avoir fait le tour. Alors, on imagine bien que c'était très compliqué de mettre plus de cartes que ça. Ça fait déjà 21 illustrations. Là, on a 4 illustratrices sur le projet, ça fait 21 illustrations chacune, ce qui est un boulot de fou. Sinon, le jeu, il coûterait une blinde. Mais voilà.
C'est pas notre problème, là, parce que nous, on n'est pas éditeur après.
C'est vrai.
Nous, on est critiques ici.
Voilà, mais ça, c'est déjà, je pense, le défaut qu'on voit déjà dans les Mysterium et tout ça, quoi.
Oui, carrément.
Et on aimerait avoir encore plus d'illustrations. Donc voilà, les deux défauts que j'ai trouvés à ce jeu. Donc là, maintenant que je t'en ai parlé, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça te donne, est-ce que je t'ai donné envie d'y jouer déjà ?
Je suis quand même curieux parce que, comme je t'ai dit, moi j'aime beaucoup Affinity, notamment, dont je te parlais tout à l'heure. Mais un défaut que je trouve à Affinity, malgré le fait que j'aime bien le jeu, c'est que t'as que 4 émotions dans le jeu de base, en fait. T'as genre, t'as le beau, le fun, le malaise et la tristesse, tu vois. Et ça me fait vraiment penser à ce que t'as dit, tu vois, sur Vice Versa, tu vois, genre t'as très peu d'émotions. Et avec l'extension, tu rajoutes l'émotion hum-hum, tu vois, l'émotion coquin, okay. On va dire. Excellent, moi j'adore. Mais du coup, le truc, c'est que pareil, tu vois assez vite que certains mots qui te permettent à fabriquer les phrases correspondent à peu près à une ou deux émotions, tu vois. Et du coup, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça donne avec 32 émotions. Tu vois, moi, pour moi, l'argument qui marche le mieux dans ce que tu m'as dit, c'est de me dire, ah, je vais pouvoir explorer un panel beaucoup plus large d'émotions, tu vois.
Oui, et ce qui est chouette, c'est que les émotions, elles ne sont pas nommées. Elles sont dessinées. Donc, tu peux mettre derrière...
Ah, j'avais pas compris ça, ouais.
Ouais, c'est les lapins, ils sont dessinés, il n'y a aucun texte sur le matériel. C'est tu interprètes les émotions. Toi, tu vois un petit lapin qui sue à grosses gouttes, est-ce qu'il a peur, est-ce qu'il a chaud ?
D'accord, ok, ouais.
Donc c'est aussi à toi, et c'est là que je trouve vraiment intéressant avec des enfants aussi.
Et puis en plus, j'avais déjà bien donné mon avis dans le Sortons le grand jeu sur Dixit, où j'expliquais pourquoi j'aime pas le jeu, nanana. Mais notamment, c'est cette structure dont tu parlais, où tu disais, bah, en fait, oui, ça n'a aucun sens que le jeu il soit pas coop, finalement. Ou du moins, je trouve qu'effectivement, moi, j'aime bien le principe d'indice nuancé, là, tu sais, où il faut donner un indice, mais pas trop évident, nanana. Mais en fait, ça marche vachement mieux dans des jeux comme Decrypto, qui ont un scoring et une structure de jeu beaucoup mieux pensée que Dixit. Voilà, c'était surtout ça, le gros reproche que j'avais à Dixit. Et aussi le fait que dans Dixit, c'était très trop large et que moi, je jouais toujours avec la variante où, tu sais, bon, bah, ce coup-ci, on est obligé de donner des films, ce coup-ci, on est obligé de donner les trucs, toi, tu joues avec des émotions. Bah, tu vois, c'est pareil, c'est jouer avec une contrainte, quoi.
Une contrainte.
Et du coup, ça corrige complètement les défauts, en fait. Et pour le coup, c'est même plus le même jeu, en fait, du coup, quoi.
Non, c'est plus du tout le même jeu, c'est plus du tout les mêmes sensations de jeu.
Moi, je te dis, ça ressemble plus à Affinity, finalement.
Et ben, ça me donne envie de jouer à Affinity.
Voilà. Mais de ce que t'en dis, ouais, j'ai envie de tester, du coup. Voilà.
Et donc, bah là, si on passe sur l'ergonomie, toi qui aimes les jeux avec des belles mises en scène aussi,
ah ouais.
Et ben là, je trouve que l'ergonomie, elle est assez ouf. Donc, tu vas dans la boîte, tu as quatre petits terriers. Les petits terriers, donc tu as une boîte double couche, si tu veux.
Ouais.
Tu as un plateau qui va recouvrir des petites trappes, si tu veux. Et donc, tu poses tes deux petites portes qui sont chacune une émotion, donc chacune un lapin. Donc là, il y a aussi toute la réflexion pour que face à face, tu puisses pas avoir deux lapins avec des émotions similaires. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un gros travail là-dessus, de réflexion sur peut-être des émotions positives d'un côté, des émotions plus négatives de l'autre, pour que vraiment, quelle que soit la configuration, la façon dont tu mettes tes petites trappes, t'aies pas deux émotions similaires, l'une face à l'autre, parce que ce qui rendrait le jeu daubé, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et quand tu as invité tes petits lapins, tu vas appuyer sur les petits côtés de ces trappes et ça va ouvrir la porte. Si tu veux, comme une porte de grange qui s'ouvre là avec deux battants.
Ok, ouais.
Et dedans, tu as les petits lapins. Et donc, tu sors tes petits lapins et tu les installes au milieu du plateau où ils ont des petites chaises et ils sont invités à l'anniversaire de la factrice. Et ce truc d'ouvrir les petites portes, je t'assure, la première fois qu'on y a joué, on n'était que des meufs autour de la table, que des adultes, et on était là, waouh. Nous avions toutes 50 autour de la table, et j'ai trouvé ça tellement délicieux, et je te raconte même pas quand c'est des vrais enfants.
Oui, bah oui, oui.
Alors là, faut un peu gérer le truc, parce que là, on jouait avec deux petites filles, elles avaient toutes les deux tout le temps envie que ce soit elles qui ouvrent la trappe, donc ça peut créer des petits moments de tension, donc il faut bien dire chacune votre tour, vous ouvrirez les petites trappes des lapins, pour éviter les conflits. Mais ouais. Sinon, cette idée-là est géniale.
Toujours des meilleures mises en scène dans les jeux pour enfants que dans les jeux pour adultes.
Je suis complètement d'accord. Donc juste, et bon, il y a un petit bémol de couleur, et ça, pour en avoir discuté avec Erwin, elle a été très déçue, parce que les couleurs des petites chaises, donc du plateau, sont pas les mêmes teintes que les couleurs des petits lapins. Il y a eu une merdouille.
Ah ouais.
Donc voilà, c'est dommage. A priori, ça sera réglé sur le deuxième print du jeu.
Ok.
Donc, si vous avez le premier, bah, il est collector.
Oui, voilà.
Et pour terminer, je voulais quand même aussi parler des illustrations. Donc, illustrations de quatre illustratrices que je vais citer. Donc, on a Sepio. On a donc Sepio qui a illustré l'île des Mookies, Refuge, etc. Lucie Dessertine, qu'on ne connaît pas encore dans le monde du jeu de société, Emily Peck et Lemon Juice Day, qui, voilà, les deux dernières non plus, c'était leur première apparition dans des jeux de société. Donc elles ont toutes les quatre des styles très différents. On est sur des cartes un peu moins polysémiques que dans le Dixit classique, c'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'on puisse, en tout cas avec des enfants, utiliser des cartes du Dixit classique pour jouer au Dixit Kids, parce que... les cartes du Dixit classique sont quand même renferment beaucoup plus de symbolisme, de sous-entendus et de thèmes différents. Donc j'ai peur que pour des enfants, ça soit un petit peu compliqué. Malgré tout, toutes ces illustrations, elles sont d'une grande, elles sont remplies de plein de détails aussi. Elles sont d'une grande richesse graphique, d'une grande variété visuelle. On a des plans larges, des gros plans, des cartes avec des personnages, des cartes avec des animaux, des cartes où il n'y a que des paysages. Donc là aussi, on ne se moque pas des enfants, parce qu'on leur offre une variété visuelle vraiment large. Et ça, je trouve ça génial.
Mmh.
Ça, forcément, c'est mon dada. Et enfin, nous, on a joué avec... Enfin, voilà, donc la variante, ça serait de pouvoir jouer avec... les cartes du Dixit classique ou les cartes d'Instella ou les cartes de Discover si on a envie, enfin n'importe quel autre jeu comme on le disait tout à l'heure. Alors ça je ne l'ai pas essayé, mais j'avoue que j'ai très envie, sauf que je ne jouerai jamais avec le Dixit Disney, hein, parce qu'on sait tout le mal que je pense du Dixit Disney, Alors même si je suis prête à changer d'avis sur le Dixit Kiss, je pense qu'il ne faut pas déconner que le Dixit Disney, je ne changerai jamais d'avis. Comme souvent les jeux à licence quand même. Et ce qu'on a fait avec les enfants, quand on jouait avec les enfants, parce que comme les cartes, elles sont dessinées et pas nommées, comme les émotions, elles sont dessinées, on leur proposait de les décrire et de nous dire ce qu'elles voyaient dans ces émotions et dans ces petits lapins. Alors l'idée, c'était d'être sûr d'être sur la même longueur d'onde. En revanche, il n'y avait que les enfants qui décrivaient ce qu'elles voyaient. Et nous, les adultes, on fermait notre bouche, on n'apportait pas de jugement, on ne remettait pas en question les sentiments qu'elles pouvaient ressentir, et on s'adaptait à elles. Donc ça, c'est pas dit dans la règle. Est-ce que c'est vraiment une variante? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a joué. Comme ça, je l'ai joué avec mes deux petites cousines, donc de 6 et 10 ans, qui ont tellement adoré le jeu qu'on en a fait 3 parties de suite. C'était un truc de fou. Alors qu'il était déjà 11h du soir. Elles ne voulaient plus aller se coucher. C'était incroyable. Donc voilà, vraiment énorme coup de cœur de ce Dixit Kids. D'autant plus que j'en pensais énormément de mal. Donc moi, j'adore ça, être retournée comme ça et juste qu'on me montre que j'avais tort.
Être agréablement surpris.
C'est pas... Carrément. Donc je vous conseille à tous de jouer à cette version du Dixit avec ou sans enfants. Les deux fonctionnent puisque sur les 5 parties que j'en ai déjà faites, il y en avait 2 qui étaient qu'entre adultes. Notamment une avec une partie de la Proxy Team à Cannes, et j'ai l'impression qu'ils avaient tous et toutes ressenti la même chose que moi. Donc voilà.
Mais du coup, en tout cas, très curieux d'essayer, ne serait-ce que pour que ça me serve d'extension pour Affinity, tu vois, juste pour avoir toutes les émotions.
Toutes les émotions, tous les lapins avec leurs petites émotions.
Ouais, ça a l'air pas mal ça quand même.
Donc je mettrai évidemment des images dans le billet pour que vous compreniez bien le principe des petits terriers, parce que je pense qu'à l'oral, c'est pas forcément facile de se,
ouais, on voit
de se faire une image mentale des petits terriers.
On voit à peu près l'idée. Ok.
Donc pour terminer, Dixit Kids, il est dispo à la Caverne du Gomblin au prix de 27,90€. Et c'est un jeu donc de Élodie Clément, Théo Rivière, Jean-Louis Roubira, illustré magnifiquement par Sepio, Lucie Dessertine, Emily Sundbeck et Lemon Juice Day, et à la direction artistique, Erwin. Voilà. Et toi donc, tu as été jouer avec des crabes?
Exactement. Moi, je vais parler de Cup the Crab. Alors, Cup the Crab... Il me semble que tu n'y as pas joué non plus.
Non, je n'y ai pas joué. Il vient juste de sortir, celui-là.
Ouais, il est tout frais.
On en a un exemplaire à la boutique, mais on ne l'a pas ouvert. Du coup, je suis très contente que tu m'en parles. Comme ça, je pourrais peut-être l'expliquer aux gens qui viendront et qui seront curieux de ce crabe rouge à la boîte bleue.
Exact. Même si tu sais bien que moi, je ne ferai aucune explication de règles.
Ouais, il faut quand même que j'ai une idée mentale du jeu, quand même.
Tu sauras ce que c'est, t'inquiète pas. Écoute, Cup the Crab, du coup, c'est un jeu qui est déjà intéressant parce que c'est un jeu où on va faire un choix simultané de 3 cartes. Ça, c'est assez bizarre. Si on compare au canon esthétique du jeu de cartes, du jeu de choix simultané, à savoir Stupide Vautour, tu sais, c'est le jeu grand classique, on en a parlé dans Sortons le grand jeu, ouais. Et tout ça, tu sais, tu commences, t'as 15 cartes en main, et à chaque tour, t'en choisis une pour faire ton enchère.
Oui.
Ben là, dans Cup the Crab, t'as 24 cartes, un truc comme ça, mais tu vas en choisir 3 par tour. Et avec ces 3 cartes, en fait, tu vas jouer la manche avec ces 3 cartes. Donc, tu te prépares en fait les cartes que tu vas utiliser pour cette manche-là, quoi.
D'accord.
Ça me fait penser à un autre jeu, justement, qui est la Scopa. Je ne sais pas si tu as déjà joué à la Scopa.
Et non, ça fait partie ma liste de jeux classiques à jouer, avec le jeu de Go aussi.
Ouais, jeu voilà, traditionnel en tout cas, italien. Et à la Scopa, en fait, tu reçois 3 cartes par tour. Alors, c'est random, c'est pas tu les choisis comme ici. Mais je trouve qu'il y a ce feeling où tu sais, tu as une main de trois cartes à chaque tour et tu vas les jouer une par une comme ça. Chacun son tour, on joue des cartes, quoi. Et donc voilà, moi je dirais qu'ici on est à mi-chemin entre Stupide Vautour et La Scopa. Donc tu as ce choix simultané qui va impliquer forcément du mind game, comme on dit. Je saurais pas trop comment le traduire en français. Tu sais, c'est je pense qu'il pense que je pense.
Du jeu d'esprit.
Du jeu d'esprit, on pourrait dire. Donc dans ton choix de tes trois cartes. Puis une phase que j'appellerais de tapage de carton, tu vois, en mode Scopa. Okay. En mode belote, en mode, tu sais, juste tu joues tes cartes une fois que tu as fini de les choisir et tu juste observes une forme de résolution à jouer ces cartes. Tu sais, c'est presque comme dans Magic ou les jeux de cartes à collectionner. Tu sais, genre, c'est comme si tu te préparais un petit deck de trois cartes et ensuite tu vas le jouer, tu vois.
Ok.
Dans une
et tu choisis dans l'ordre dans lequel tu vas le jouer ou c'est...
Alors non, tu t'es préparé trois cartes, mais après, selon ce qui va se passer, tu les joueras pas forcément dans l'ordre prévu, tu vois. Mais c'est pas un jeu de programmation, tu vois. C'est pas tu programmes trois cartes, c'est vraiment tu prépares une main. Mais il n'empêche que la phase de résolution, elle est quand même un petit peu automatique. Je dirais pas 100% automatique, t'as quand même des choix, tu vois. Mais t'es plus en mode, c'est pour ça que je dis tapage de carton, tu vois, t'es comme ça à jouer tes cartes. Et du coup, comme ça, t'es pas démuni face au choix, puisque en fait, tu t'es déjà semi-programmé tes trois cartes, on va dire. On peut le dire comme ça, quoi. Mais t'as pas ta main de 24 cartes pour toute la partie, quoi.
Et la main, c'est la même pour tout le monde.
Les 24 cartes qu'on a au départ, tu veux dire ?
Ouais.
C'est à peu près la même pour tout le monde, on va y revenir.
Okay.
Mais on va dire que c'est la même pour tout le monde. Mais du coup, tu vois, c'est assez rigolo d'avoir ce choix-là. Et puis comme dans Stupide Vautour, tu vois, d'avoir aussi de moins en moins de choix au fur et à mesure de la partie. Tu vois, tu sais, la dernière manche, par exemple, il te reste plus que trois cartes, bah, t'es obligé de prendre celle-là. Et du coup, il y a ce côté un peu, encore une fois, résolution finale. Tu vois, tout n'est que... tu fais des choix et après, tu observes les résolutions. Et plus ça avance, plus tu vois les conséquences de ce que t'as fait avant, quoi, on va dire. Enfin, moi...
Je vois.
En termes de sentiment de jeu, tu vois, ça me fait vraiment... tu sais, c'est un truc, ça me fait trépigner, moi, le mind game, tu vois. Tu sais, il y a un truc de... Ah, j'aurais pu jouer autrement, ou qu'est-ce qui va faire l'autre, et tout, enfin, là, en l'occurrence, c'est les autres, parce que ça joue plutôt à 3-4, on va dire. Mais du coup, tu vois, il y a... Moi, le truc de je pense qu'il pense que je pense, ça m'excite énormément, ce genre de truc, je sais pas pourquoi, ça me fait trépigner. Quoi.
Je pense parce que t'aimes bien... comprendre comment fonctionnent les autres.
Peut-être. Mais tu sais, c'est aussi une forme d'ouverture des possibles. Tu vois, c'est comme je te dis, c'est... tu vas faire immédiatement un choix et tu vas immédiatement le regretter. Tu vas tout de suite te dire « Ah putain, si j'avais choisi l'autre truc, eh ben j'aurais pu le counter et tout. » Donc tu sais, c'est ce truc que Alan Moore disait dans sa manière de concevoir les jeux. C'était de faire des choix très simples, mais dont tu vois immédiatement les conséquences négatives ou positives, tu vois. Donc voilà.
Ok.
Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces cartes ? Ben, en fait, après, pendant la phase de tapage de carton, tes cartes, en fait, tu vas les jouer dans des colonnes qui vont former des lots. Il y a une limite à 3 colonnes au milieu de la table. Et donc, l'idée, c'est qu'on place nos cartes comme ça, chacun son tour dans les colonnes, et à un moment... T'as une carte, c'est on va dire le crabe, qui te permet de récolter un des lots. Alors je dis on va dire le crabe parce qu'en fait c'est une mauvaise traduction. En fait ce sont des Bernard l'ermite. Mais évidemment que quand je joue tout le monde dit crabe, mais en vrai c'est des Bernard l'ermite crabe en l'occurrence. Mais bon voilà.
Donc dans l'idée qu'ils se créent leur maison.
Ouais c'est ça. On va y revenir, je vais en reparler de ce truc-là. Mais l'idée, c'est que oui, c'est des petites maisons qu'on crée au milieu de la table et hop, on va ramasser cette maison. Ça, moi, je dirais que ça me fait penser à la mécanique des enchères à la hollandaise. Alors ça, j'en avais déjà parlé dans une chronique sur ce que j'appelais l'épissage d'action. Voilà, plein de termes un peu compliqués, mais l'idée, tu vois, c'est les enchères à la hollandaise, tu sais, c'est des enchères où je te donne un prix qui va se réduire, et quand quelqu'un veut acheter, il dit, ben voilà, moi je prends à ce prix-là. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu l'achètes pour 200€ ? Non, 190, 180, 160, tu vois, on réduit doucement jusqu'à ce que quelqu'un accepte ce prix. Il y a un jeu absolument génial qui s'appelle Merchants of Amsterdam, qui fait ça avec une mise en scène très cool, avec un petit jouet électronique comme ça qui affiche, tu vois, qui fait qui affiche le prix comme ça en tournant, et il faut taper dessus pour arrêter le prix, tu vois.
D'accord.
Mais donc bref, voilà. Mais c'est, en fait, c'est un truc qu'on voit dans plein de jeux de société, tu sais, ne serait-ce que les jeux avec une rivière de cartes où tu sais, genre, la première elle coûte 0, la deuxième elle coûte 1, oui, puis 2, 3, 4, et puis tu sais, ça se décale au fur et à mesure, tu sais, ouais, comme dans Small World par exemple, tu sais, les peuples à Small World.
Ouais, je vois.
Bah, en fait, indirectement, c'est une enchère à la hollandaise, ou du moins ça utilise ce mécanisme de prix qui va se réduire au fur et à mesure. En fait, on voit plus souvent aussi l'inverse, c'est-à-dire justement l'épissage d'action, comme dans Puerto Rico, où tu sais, quand on prend pas un rôle, on met une pièce dessus pour que du coup la valeur augmente. Mais au final, c'est la même chose, c'est-à-dire que plutôt que de réduire un prix, on augmente le bonus de cette action, quoi. C'est ça l'idée.
Ouais, je vois.
Et donc pourquoi je pense aux enchères à la hollandaise ? Parce qu'en fait, Cup the Crab, il fait penser vraiment à une sous-branche, je dirais, des enchères à la hollandaise. C'est les jeux où justement on fabrique des lots collectivement qui augmentent de valeur, comme ça, poup, 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 poup. Et à un moment, tu vas te servir. Et toute la question de ces jeux-là, c'est quand est-ce que tu vas te servir ? Parce que ces lots, ils sont mis au centre de la table de manière collective. Si je peux donner des exemples, c'est un peu comme Herbaceous. Là, on peut faire un petit rapprochement même matériel, parce que dans Herbaceous, c'est aussi un jeu avec des cartes. Et donc, Herbaceous, tu vois, tu as des cartes qui se mettent au centre de la table, et à un moment, tu dis, allez, hop, moi, je prends les cartes qui sont au centre de la table, et je fais un lot avec, tu vois.
Ouais.
Un autre exemple aussi plus classique, c'est Medina, où, pareil, on construit des petites maisons sur un plateau, et à un moment donné, tu dis, bah là, les maisons, elles sont à moi. Ce groupe de maisons-là est à moi. Je pense que Medina, c'est peut-être le plus proche en termes de gameplay, mais pas du tout en termes de mise en scène, avec ce truc de lot qui augmente et à un moment, il faut se servir, quoi.
Oui, mais oui, et vraiment une histoire de tempo sur Medina.
C'est ça. Bah, du coup, tu vois, c'est ce dilemme entre attendre que le lot augmente de valeur et prendre le lot tant que les autres ne l'ont pas pris, quoi, tant qu'il est disponible.
Ouais, c'est ça. Au risque de te le faire piquer sous le nez si tu attends trop, quoi.
Et voilà, c'est ça.
Donc, et avoir ce truc, cette espèce de serrement de fesses à chaque fois que ça revient à toi et que tu dis non.
C'est ça.
Dire est-ce que ça va revenir à moi le coup d'après, est-ce que ça sera encore là.
Tout à fait. Bah, du coup, c'est en fait, c'est un genre de stop ou encore, indirect, tu vois. Mais pas du tout mis en scène de la même manière. Tu vois. D'habitude, le stop ou encore, c'est il y a une personne seule qui joue et qui décide si elle continue ou elle s'arrête. Là, c'est vraiment, tu vois, on joue chacun son tour et à un moment donné, tu vas le prendre, mais au final, le sentiment est le même, tu vois, le sentiment de est-ce que je prends maintenant ou est-ce que j'attends, tu vois, stop ou encore, quoi. Est-ce que je risque pas de me le faire piquer sous le nez. Dans ces fabrications de lots collectifs, là, on peut penser aussi à Coloretto, mais je pense que c'est plus éloigné dans la manière de prendre les lots parce que Coloretto, déjà, il y a aussi ce truc de on fabrique les lots collectivement, mais les lots peuvent être à la fois positifs et négatifs selon les joueurs et tout. Donc, il y a plus un truc de faire chier les autres dans Coloretto, je trouve.
Ouais. Que là, dans le même genre, t'as Tucano aussi, où tu fais des lots collectifs, mais où t'as des trucs qui sont bien et d'autres qui sont beaucoup moins bien.
Ouais, voilà. Qui, du coup, sont pour moi assez différents. Tu vois, Cup the Crab serait vraiment beaucoup plus une espèce de version compacte de Medina, tu vois, où on fait des lots et à un moment, hop, tu le ramasses et de toute façon, il est positif, tu vois. Donc, le sentiment, c'est vraiment beaucoup plus cette espèce de stop ou encore. Oui, et donc pour info, tu me disais tout à l'heure, ah oui, les Bernard l'Ermite, ils fabriquent leur maison, machin. En fait, c'est justement toute une petite mise en scène dans le jeu où, en fait, les lots de cartes, c'est censé être des boîtes de, je sais pas, des gobelets, des trucs comme ça, tu sais, qu'on aurait laissé traîner, j'imagine, sur la plage. Et en fait, les Bernard l'Ermite vont se fabriquer une maison à partir de ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est une espèce de pile, comme ça, de pots qu'on empile les uns sur les autres. Parce que, tu vois, on met les cartes, ouais, je sais pas trop comment dire. Je pense que tu imagines bien une colonne de cartes dont on laisse dépasser juste le chiffre, tu vois.
Ok.
Et du coup, ça fait comme une sorte de pile de gobelets. Je dis des gobelets, mais tu vois, il y a un peu de tout. Tu vois, il y a un pot de ramen, il y a un pot de machin.
D'accord.
De chips ou je sais pas quoi. Et du coup, le crabe, il va aller se mettre dedans. Alors, c'est rigolo dans l'idée, tu vois, en termes de mise en scène. Mais pour le coup, c'est hyper pas intuitif. Parce que du coup, les pots, ils sont renversés. Mais comment dire, le chiffre sur la boîte le chiffre qui indique du coup la valeur en points que ça rapporte, ben, il est écrit dans le sens de lecture, alors que le pot est renversé à l'envers, ce qui fait que quand il y a écrit des trucs sur le pot, c'est écrit dans l'autre sens, tu vois.
Dans le sens, ça, c'est pas malin.
Inverse. Donc du coup, c'est pas du tout logique. Enfin, même si, tu vois, ça serait... c'est logique dans la diégèse, tu vois, mais c'est pas du tout logique ergonomiquement. Donc les gens, ils savent jamais comment foutre leur pot au milieu de la table, tu vois, déjà. Mm-hmm. Mais en plus, le crabe, enfin, le Bernard l'ermite, lui, il est à l'envers par rapport à tout ça, parce qu'il cherche à se mettre à l'intérieur du pot, tu vois. Donc la carte, elle représente le crabe, mais en bas, quoi. Et donc, soudainement, le bas de la carte, en fait, faut le mettre à l'envers, parce que le crabe doit se retrouver vers le haut de la carte pour être en bas, enfin, être collé au bas de la carte du gobelet. C'est hyper chiant. Tu vois, même à expliquer en podcast, c'est hyper chiant.
Ouais. C'est insupportable. Je pense qu'il faudra une image pour nous expliquer ça.
Eh oui, ça, c'est hyper chiant. Bah, en fait, non, franchement, pour le dire plus simplement, tu vois, les gobelets, ils touchent le bas de leur carte, puisqu'ils sont censés être par terre.
Ouais.
Mais en fait, le crabe, lui, il touche le haut de sa carte, puisqu'il faut que tu puisses le coller contre le gobelet, tu vois, et faire cette espèce d'image où il est dans le gobelet, tu vois. Quand tu mets la carte l'une en dessous de l'autre, tu vois. Donc bref, c'est hyper chiant. C'est hyper chiant. Il y a aussi le fait que le chiffre, il est indiqué sur le gobelet, mais il est aussi indiqué en haut de la carte pour que quand tu la tiens dans ta main, tu sais, quand tu les tiens en éventail, tu le vois aussi, si tu veux, dans le ciel, quoi, le chiffre, on va dire. Mais le problème, c'est que du coup, quand tu places les pots, tu recouvres ce chiffre. Tu ne vois plus que le chiffre qui est sur le pot en bas. Donc c'est chiant aussi, parce que du coup, les gens, ils savent pas quel chiffre il faut laisser visible. Est-ce qu'on empile les gobelets comment, nanana. Donc en fait, il y a une mise en scène qui est très cool, mais qui est pas du tout intuitive. Et les gens, faut leur expliquer 15 fois avant qu'ils y arrivent, quoi.
Ok.
Voilà, tout ça pour dire ça. Par contre, ce qui est cool, c'est le mouvement quand tu ramasses. C'est-à-dire que dans l'idée, comme dit le Bernard l'ermite, je t'ai dit, t'es censé le mettre en bas de cette pile. Et tu sais, je sais pas pourquoi c'est intuitif, c'est même pas écrit dans la règle, mais logiquement, tu vois, les gens, ils utilisent cette carte pour ramasser le lot de cartes. C'est-à-dire, tu sais, t'imagines toute la colonne de cartes, tu sais, tu vas faire un mouvement, je sais pas comment dire, de petite pellette, comme si c'était une petite pellette.
Ouais, je vois.
Et tu vas ramasser toutes les cartes avec ton crabe. Encore une fois, c'est pas expliqué dans la règle, mais intuitivement, les gens font ça, et je trouve qu'il y a un truc assez cool, parce que ça donne l'impression que c'est comme si le crabe, hop, il emportait tout, et il se rangeait dans tout ça, et puis hop, il l'embarque, tu vois. Et après, tu prends la pile devant
là,
toi.
Là, pour le coup, là, j'ai bien vu. Voilà. Cette image est...
est plus claire, hein.
Bien imagée, ouais.
En même temps, c'est dur d'expliquer un truc qui est pas ergonomique, pour le coup.
Tout à fait.
Mais bon, les gens qui ont joué verront très bien de quoi je parle. Donc voilà, ça c'est à peu près le seul truc à dire, hein, sur la mise en scène. L'autre truc intéressant, du coup, je reviens sur mes histoires d'enchères à la hollandaise, etc. L'autre truc intéressant, c'est que la manche, elle est continue. Bon, bah ça c'est un peu comme dans Herbaceous ou dans Medina. Mais tu sais, je t'ai dit qu'on prenait trois cartes en mode Scopa. Mm-hmm. Tu les joues, mais ensuite tout ce qui reste, les lots qui restent au milieu avec les colonnes, etc., qui traînent, bah, ils restent là pour la manche d'après. Donc s'il reste une boîte qui vaut 8 points, elle reste au milieu de la table et quelqu'un peut la choper à la manche d'après. Donc c'est vraiment là que je trouve que ça fait vraiment proche de la Scopa. Parce que dans la Scopa aussi, tu sais, tu reçois 3 cartes par tour. C'est un jeu de pêche, donc tu sais, tu vas jouer une carte, ça va te permettre de récupérer des cartes qui traînent dans une rivière, comme ça. Et du coup, d'une manche à l'autre, s'il reste une carte qui traîne dans la rivière à la Scopa, bah, peut-être que hop, t'as de la chance, dans les 3 cartes qu'on te distribue après, ça te permettra de la récupérer. Donc, d'accord. C'est ça que j'entends par manche continue, tu vois. Mm-hmm. Mais sauf que là, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que c'est pas random comme à la Scopa, c'est un choix, comme je disais, simultané à la stupide vautour. Du coup, ça crée des dynamiques où tu vas parfois faire exprès de laisser un lot intéressant, parce que tu sais que c'est toi qui joues en première lors de la manche suivante.
Et qui te reste encore des cartes intéressantes dans ton jeu.
Et que du coup, voilà, bah, enfin, typiquement, tu laisses le plus gros type de pot, c'est 10 points. Tu laisses un pot à 10 points en dernière action, quoi, parce que tu sais qu'au prochain tour, t'es première, et du coup, tu vas te prendre un crabe dans ton choix simultané, là, et vu que tu joues en première, boum, tu joues le crabe et tu récupères le lot, tu vois.
Je vois.
Donc, ça, tu vois, ça crée des dynamiques où t'as le sentiment de préparer des coups, tu vois, de préparer des bons coups, j'ai envie de dire. Et ça, c'est assez satisfaisant. Tu vois, ça rend le truc beaucoup plus intéressant. En tout cas, je trouve que la Scopa, où c'est full random, quoi.
Oui, alors on aime bien ce genre de sensation.
C'est
de
ça.
Préparer un bon coup et de pouvoir le faire.
En fait, vu que c'est un choix simultané, c'est un peu comme si, tu sais, c'est pas, encore une fois, une programmation, mais tu préparais tes trois prochains choix, tu vois. Mais tu fais en sorte qu'ils combattent bien avec la manche suivante que tu as déjà en tête, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois.
Mm-hmm.
Donc c'est pour ça que c'est très particulier. C'est vraiment un sentiment que j'ai quasi vu dans aucun jeu, tu vois. Une espèce de semi-programmation comme ça, très intéressant. Et donc, le dernier point très important, c'est que, en fait, il n'y a pas que des crabes. Parce que je t'ai parlé des cartes qui valent des points. Il y a les crabes qui permettent de ramasser un lot. Mais en fait, tu as des cartes spéciales. C'est-à-dire que tu as les bouteilles qui te permettent, en fait, de bloquer un lot. Donc, tu la mets sur un lot et, en fait, le crabe, il ne peut plus rentrer dans la bouteille. Du coup, il peut pas ramasser, plus personne ne peut ramasser ce lot-là. Et tu as les pieuvres qui, elles, c'est l'inverse, elles ne peuvent ramasser que les lots qui sont dans une bouteille. Parce que les pieuvres, ça vit dans les bouteilles, dans l'idée.
Ok.
Encore une fois, je t'épargne le fait que la bouteille, elle est à l'envers par rapport au pot, donc personne ne comprend jamais dans quel sens il faut la mettre. Mais du coup, il y a un côté un peu... Tu sais, moi, ce que j'appelle le sentiment de jeu d'arcade, dans les pouvoirs, parce qu'il y a cette idée que c'est des pouvoirs avec un peu une... Vite fait, une personnalité, tu vois. Mais il y a cette idée que dans ce que tu prévois, tu sais, dans tes trois cartes, bah déjà, comme je l'ai dit, il faut que tu prévois le moment où tu vas prendre avec le crabe, ok. Mmh. Donc tu sais que dans la partie, tu vas prendre, je sais plus, je crois qu'on a trois crabes, donc c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que trois lots que tu vas prendre dans la partie avec les crabes, déjà, tu vois. Un peu comme, bah, encore une fois, comme dans Herbaceous, hein. Herbaceous, tu as le droit de prendre que quatre fois dans la partie. Tu as un jeu qui s'appelle Météo aussi. Je fais une dédicace à Mad, oui. Parce qu'elle en avait parlé dans Un jeton dans la mare. Et depuis, je l'ai testé. Et c'est exceptionnel, ce jeu. C'est aussi exceptionnel que ce qu'elle avait dit. Et effectivement, je comprends qu'elle ait détesté... comment c'était
C'était Amanite, je crois. Ouais. Ouais.
Effectivement, c'est de loin supérieur à Amanite, ce jeu. Mais il y a aussi ce sentiment dans Météo de à quel moment je prends, parce que j'ai le droit de prendre que trois fois dans la partie, tu vois. Mais là, c'est beaucoup plus vicelard parce qu'en fait, tu le prévois, tu vois. Et donc, du coup, vu que c'est le choix simultané, tu sais, il y a le côté, encore une fois, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais me faire avoir, etc. Mais vu qu'il y a les bouteilles, bah du coup, comme dit, tu peux bloquer les autres ou tu peux, entre guillemets, te réserver un lot pour ta future pieuvre qui est la seule à pouvoir récupérer ce lot-là. Et du coup, bah ça crée plein de situations. C'est pour ça que je considère que c'est un peu un jeu d'arcade parce que il peut se passer plein de trucs. Par exemple, tu peux, comme je disais, finir avec une bouteille en sachant que tu vas être première à jouer au tour d'après et du coup que tu prendras une de tes pieuvres qui te reste pour récupérer le lot que t'as bloqué à tous les autres. Mais du coup, sachant ça, moi je sais que toi tu vas faire ça, donc je vais te counter en prenant une pieuvre. Parce que je sais que tu vas faire la stratégie de la bouteille.
Si tu joues, bien sûr, et si tu joues avant moi, bah, je suis coincé.
C'est ça. Mais si toi, tu penses Yomi 3 que je vais faire ça, tu vois, tu penses, bah, du coup, tu vas pas prendre la bouteille et moi, je me retrouve avec une pieuvre toute seule qui, du coup, n'a pas de bouteille et dans ce cas-là, elle ramasse rien parce que la pieuvre, elle doit forcément ramasser avec une bouteille, tu vois. Sinon, elle fait aucun point. Elle a pas le droit de ramasser.
Donc, t'as perdu ta pieuvre.
Exactement. Et ça peut même arriver que tu perdes des crabes parce que, je sais pas, c'est la dernière carte qui te reste en main et les autres, ils ont piqué tous les lots avant toi parce qu'ils ont aussi pris des crabes pendant cette manche. Donc tu vois, t'as plein de trucs comme ça où juste t'as des cartes qui sont complètement inutiles parce que tu t'es fait counter, tu vois. Et ça n'existe que par ce mélange de petits pouvoirs en mode arcade, même si c'est très léger, il y en a que trois, et choix simultané, tu vois. C'est vraiment ce mélange-là qui crée cette dynamique-là, tu vois, d'observer des situations et ou de prendre du plaisir aussi à les créer. Parce que comme je te dis, on crée des bons coups, on crée des situations, tu vois.
Et semi-programmation où, en général, tes plans, ils se passent jamais comme
prévu.
Comme tu l'entends.
Exactement.
Et c'est ce qu'on aime dans la programmation.
Bah oui, on a envie de se faire péter ses plans, quoi. Comme dans Galaxy Trucker, tu vois, le plaisir de se faire péter son vaisseau, même si c'est pas vraiment une programmation, mais voilà.
Ou dans Colt Express,
bien sûr.
Quand tu balances un point dans le vide, là.
Ah oui, tout à fait. Donc voilà, c'est ces petits pouvoirs, je trouve ça très cool. Même si, ben là, on arrive à peu près au seul défaut que je donnerais au jeu, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu pas assez riche. Parce que, en fait, quand je te disais qu'on avait 24 cartes en main, en fait, t'as genre 3 crabes, 2 bouteilles, 2 pieuvres, et tout le reste, c'est juste des chiffres. Donc des cartes qui ont des valeurs pour servir de trucs à ramasser, quoi. Et du coup, même dans ces chiffres, tu vois, c'est pas très excitant, quoi. Bon, certes, c'est des chiffres qui vont de 1 à 10, donc il y a un gros écart entre les valeurs. Mais en vrai, même avoir le 10, je le trouve pas si excitant. Tu vois, je suis plus excité, tu vois, dans un Flip 7 où il n'y a pas beaucoup plus de cartes spéciales, mais quand même, tu vois, c'est suffisant pour me donner le sentiment plus d'arcade. Et en fait, c'est ce que je regrette dans Cup the Crab. Je pense que ça manque un peu de cartes spéciales. Voilà, j'aurais aimé être un peu plus surpris que ça, et ça aurait créé, je pense, encore plus de situations et encore plus le sentiment de préparer son petit deck à la Magic avec ses petits pouvoirs et tout ça.
Mmh. Ouais.
Donc voilà.
Oui, parce que du coup, tu vas avoir plusieurs manches, enfin, ou mains, où tu vas jouer que des contenants, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, bon, ça va, hein, t'as quand même 7 cartes spéciales. En fait, je t'ai dit 24, je crois que c'est 21 cartes. Je crois qu'on joue 7 manches. En fait, dans l'idée, t'as une carte spéciale par manche plus 2 chiffres, okay. Tu vois. Mais ça fait quand même 2 tiers des cartes qui sont juste des chiffres, tu vois. Donc c'est un peu, bon, un peu bof, tu vois. J'aurais aimé des chiffres, même, tu sais, même un x2, un truc un peu rigolo comme ça, ou un truc qui remet le lot à zéro, des trucs comme ça, quoi.
Ouais, la boîte de conserve qui t'enferme le crabe. Et...
des chiffres négatifs, tu vois, des trucs comme ça. Voilà, ça manque un peu de trucs un peu rigolos comme ça. Voilà, donc en gros, tu vois, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Finalement, tu vois, Cup the Crab, si je dois faire une conclusion, je dirais que tu vois, c'est un petit mélange très intelligent de beaucoup de dynamiques. En fait, tu vois, t'as les enchères à la hollandaise qui vont créer cette trépignation de savoir s'il faut prendre le lot maintenant ou attendre qu'il gonfle. Mais en même temps, t'as du mind game parce que tu programmes un peu chaque nouveau tour à l'avance avec notamment ces cartes spéciales. Qui est finalement un peu tout le cœur du jeu. D'ailleurs, à se demander si on peut parler de cartes spéciales, parce que si c'est tout le cœur du jeu, tu vois, est-ce que c'est pas plutôt des cartes normales, finalement ? Mais qui sont du coup le moteur de petites situations rigolotes. Peut-être pas assez, comme je disais, mais il n'empêche que, tu vois, pour moi, ça reste un jeu qui provoque un bon mélange, un bon cocktail de toutes ces sensations, et du coup, bah, c'est déjà pas mal, parce que moi, j'ai jamais vu ce mélange-là. Et donc, je trouve ça cool. Si je devais mettre une note... Maintenant, j'ai décidé de mettre une note à toutes mes critiques. Okay. Ce serait 15 sur 20, tu vois.
Ok. Ouh, dis donc.
Ce qui est déjà pas mal.
Bah oui. Pour toi qui est plutôt sévère, c'est une belle note.
Donc voilà, très bon jeu, mais mérite d'être plus arcade.
Bah écoute, tu m'as donné très très envie d'y jouer, en tout cas. Bah ce côté programmation que je trouve très cool, quoi. Même si j'ai compris que c'était pas tout à fait de la programmation.
Ouais, mais c'est proche quand même. Hein. Ce sentiment de se faire péter sa programmation, tu l'as, tu vois, finalement.
Ouais, mais c'est ça que j'adore dans la programmation.
C'est ça.
C'est quand les plans, ils vont pas comme on veut. Je veux être quelqu'un d'un peu bizarre. Je pense que la plupart des gens, ils aiment quand leurs plans se déroulent selon leurs plans. Moi, j'aime quand mes plans, ils merdent.
Ouais,
parce que je trouve ça très drôle.
Pas sûr. Moi, je pense que c'est les mauvais joueurs, peut-être, qui aiment pas ça, mais... Mais est-ce qu'on joue avec des mauvais joueurs? Je suis pas sûr. En tout cas...
Ça arrive. Malheureusement, ça arrive.
Je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter sur Cup the Crab?
Ben non, mais je te donnerai mon avis quand j'aurai joué, parce que je pense que ça va arriver vite.
Carrément. Tu mettras un petit commentaire, comme ça...
Oui, je mettrai un petit commentaire.
Ça sera lu lors de la prochaine émission. Ben, en tout cas, les internautes pourront peut-être retrouver ce jeu à la Caverne du Gobelin, mais en fait, je ne sais pas, parce que, comme tu dis, il vient tout juste de sortir et je ne le vois pas encore sur le site de la Caverne. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire le prix, mais je pense qu'ils vont le rentrer, hein, c'est à peu près sûr, mais je ne sais pas à quel prix. Mais c'est du format toute petite boîte, donc ça doit coûter quoi, entre 15 et 20 balles.
Oui, c'est une petite boîte carrée, ouais, c'est ça.
Un truc comme ça.
Si vous vous dépêchez, il y en a un exemplaire à la boutique de Benin. Qui n'est pas sponsor de l'émission.
Qui n'est pas sponsor, mais presque. Ok, et eh ben écoute, merci Elodie, je pense qu'on est bon hein, sur nos deux petites critiques. Mais écoute, je pense qu'on peut conclure. Donc, que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy, ça s'écrit avec un i et jeu avec un x. Elodie ira mettre son petit commentaire quand elle aura joué à Cup the Crab, bien entendu.
Promis.
Mais vous pouvez aussi y retrouver toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Notamment, regardez les belles illustrations de Dixit Kids que Elodie ira mettre dans le billet.
Et le fameux Bernard l'Ermite avec ses contenants à l'envers, à l'endroit, dessus, dessous.
Exactement. Vous pouvez également nous contacter sur plein de réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram, sur Mastodon, sur Blue Sky. Ou vous pouvez nous rejoindre sur Discord pour parler directement avec nous. Mais vous pouvez aussi parler de nous autour de vous. Hein. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Normalement, on se retrouve la semaine prochaine dans un dossier. On ne sait pas encore de quoi ni qui sera dedans, mais on verra bien. Et pour un jeu du mois, du coup, dans un mois, hein, normalement.
C'est un peu le principe des jeux du mois, un par mois.
C'est le principe jusque-là. Et en attendant tout ça, jouez bien.